Nous allons faire une petite pause dans notre étude de l'évangile de Marc, parce que nous allons aborder prochainement en Marc un long passage qui demandera trois sermons pour vraiment communiquer tout ce qui est dans ce passage qui parle de la chute de Jérusalem et du retour du Fils de l'homme. Donc, au lieu de commencer ça aujourd'hui, la semaine prochaine, je serai à Grenoble, Joël prêchera ici. Je voudrais plutôt vous parler de la prière aujourd'hui et quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez sur la feuille que ce message est intitulé tout simplement « Qu'est-ce que la prière ?» Et vous allez peut-être penser, mais vous allez nous définir la prière, on prie depuis des années. Comment est-ce qu'on peut avoir un sermon qui puisse nous apporter quelque chose en répondant tout simplement à une question si simple? Pourtant, je crois que ce que nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu peut être absolument révolutionnaire. Et je pense que nous tous, dans une mesure, nous ne comprenons pas complètement ce que c'est que prier. Au moins de manière chrétienne. Et c'est ça que nous allons essayer de voir aujourd'hui, que Dieu nous vienne en aide par son esprit. Petite introduction. Comme le salut, la prière est fondamentalement trinitaire. Trinitaire. Ça veut dire que quand vous priez, vous vous impliquez dans quelque chose en laquelle le Père, le Fils et l'Esprit sont tous les trois actifs avec vous. Écoutez ce verset. C'est l'apôtre Paul qui dit « Car par lui, Jésus, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Vous voyez le mot « accès », on parle de la prière ici, mais par Jésus, le Fils, nous avons accès au Père dans l'Esprit. Et chaque fois que vous priez, toute la Trinité est impliquée dans ce que vous êtes en train de faire. Nous comprendrons mieux cela après, mais si votre prière n'est pas trinitaire, elle n'est pas chrétienne. Et souvent, les chrétiens prient des prières qui ne sont pas trinitaires. Je vais juste vous donner un petit exemple. De manière ordinaire, la prière chrétienne s'adresse au Père. La plupart du temps, quand je suis dans les églises évangéliques, j'entends les gens baissent, je vois les gens baissent leur tête et dire « Seigneur Jésus ». On peut prier le Seigneur Jésus, mais cela est plutôt exceptionnel qu'ordinaire. Vous allez voir que la prière chrétienne ne fonctionne pas si on n'est pas en train de prier au Père comme un Fils par le Fils dans l'Esprit. D'ici la fin du message, je pense que vous allez voir pourquoi je parle ainsi. Mais cette habitude de prier au Seigneur Jésus montre un profond problème grave dans la prière des chrétiens, qui manque une conscience de la relation filiale auprès du Père. Je reviendrai sur cela tout à l'heure, donc, je crois que vous verrez pourquoi je commence avec cette introduction. Ok, nous allons aborder le premier point. Et pour cela, il faut que nous lisions le texte de Matthieu 6. Je lirai le verset 1 et je sauterai jusqu'au verset 5. Notre Seigneur dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. » Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, premier problème dans la prière. Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous dis, le dit, ils ont reçu leur récompense. Qui était quoi, leur récompense? Vous avez vu la logique? C'était le fait d'être vu par les hommes. C'était leur récompense. Ils ont eu de la gloire devant les hommes. Et là, c'est tout ce qu'ils ont eu. Leur prière n'aboutit qu'à ça. Verset 6. Mais toi, et remarquez bien le changement de vous à toi. Le verset 5, lorsque vous priez, et maintenant, verset 6, mais toi, parce qu'à partir d'ici, il va décrire la prière individuelle, secrète. Ok? Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Deuxième problème dans la prière. Le premier, c'était les hypocrites, et le deuxième, c'est les païens. Deux sortes de personnes qui prient et prient mal. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, la première chose que nous devons remarquer dans les propos de notre Seigneur, c'est que le lieu secret est l'endroit spécial pour rencontrer le Père dans la prière. Nous l'avons lu dans le verset 6. « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. » Regardez cette phrase. Ton Père qui est dans le lieu secret. Maintenant, vous allez me dire que Dieu est partout. Oui, mais Dieu n'est pas partout de la même manière. Dieu est omniprésent. Mais la Bible indique bien, malgré la pensée de certains évangéliques qui s'arrêtent là et disent Dieu est partout, on peut prier de la même manière partout. Oui et non. Oui et non. La Bible dit que Dieu est partout, mais sa présence n'est pas manifeste de la même manière partout. Exemple, Jésus vous promet, lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là. Mais n'es-tu pas partout? Oui, mais cette promesse veut dire qu'il est là d'une manière qui dépasse juste sa simple présence à n'importe quel moment. D'accord? Il y a une présence manifeste et particulière de Dieu qui n'est pas lié à un endroit, mais qui est lié à soit le fait que nous sommes ensemble au nom de Christ dans l'Église, ou soit que nous sommes venus dans le lieu secret où le Père promet d'être dans une manière particulière. D'accord? Je vous donne juste un petit exemple. Si aujourd'hui nous avions un millionnaire dans notre assemblée, et si on passait, on passe pas un panier dans cette église, mais si on passait le panier, et c'est quelqu'un que nous ne connaissons pas, hein, et il donnait 10 euros. Nous aurions eu la présence d'un millionnaire, mais non pas la présence manifeste d'un millionnaire. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ok? Donc, il ne faut pas que nous aplatissions tout. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que sa présence demeurait d'une manière spéciale au Temple et à Jérusalem. Et Christ est le temple aujourd'hui, nous sommes en lui, mais il nous a fait des promesses qu'il donne sa présence de manière particulière dans le culte, par exemple, et c'est pour ça que c'est grave quand les gens ratent le culte du peuple de Dieu. Et certains pensent qu'ils peuvent faire le culte tout seul à la maison. Oui, mais tu n'auras pas la promesse d'une présence particulière du Christ comme il a fait au peuple de Dieu réuni en son nom. Ce n'est pas la même chose. Et donc, dans ce passage, nous avons une promesse de la présence du Père dans le lieu secret où le chrétien vient pour être avec Dieu seul. Prier Dieu seul sans que personne ne voie. Est-ce que vous priez en secret? Est-ce que vous fermez la porte? S'il y a une porte? Pourquoi est-ce que le lieu secret est important? Quand nous regardons les propos de notre Seigneur, nous pouvons peut-être relever deux réalités quand vous priez en secret. La première réalité que vous avez, je l'ai mis en point A sur la feuille, parce que dans le lieu secret, nous touchons par la foi la réalité que Dieu, et je dirais Dieu le Père en particulier, est là. Que Dieu est là dans le lieu secret. Lorsque Jésus dit dans ce verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret. » D'une manière qui n'est pas la même quand tu pries devant les gens pour être vu des gens. Non, ça ne marche pas. Tu n'auras pas c'est une rencontre de la même manière. Mais dans le lieu secret, nous touchons par la foi la réalité que Dieu est là. Hébreux 11:6 nous dit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire deux choses. » Le premier, vous vous rappelez? Que Dieu est. C'est un peu lié à cela. Quand vous apprenez à prier en secret, vous n'allez pas apprendre à prier en secret, à moins que vous croyiez que le Père est là et il vous attend. Je vous explique maintenant. On peut prier en groupe sans croire que Dieu est vraiment là, sans avoir une foi vraiment vive que Dieu est là. Parce que il y a une présence. Il y a d'autres gens, les gens parlent, il y a quelque chose qui arrive. Et donc, vous pouvez, pendant longtemps, vivre cela sans trop de problèmes, sans réaliser que vous n'êtes pas en train de toucher la réalité que Dieu est là. Mais si vous priez avec la porte fermée et il n'y a personne, aucun autre humain, si vous ne croyez pas cela, si vous ne touchez pas par la foi cette réalité que Dieu est là, qu'est-ce qui arrive? Tu t'ennuies bien vite. Pourquoi? Parce que tu es tout seul. Tu dis, ouais, oh, j'arrive pas à prier seul. Ah, voilà le problème. Je peux prier avec les autres, mais tout seul, c'est ça. Ah, parce que dans le lieu secret, on touche et on doit toucher la réalité par la foi que le Père est là d'une manière particulière. La deuxième raison pour laquelle la prière en secret est importante, c'est parce que dans le lieu secret, nous touchons par la foi la réalité que le regard du Père suffit. Et je dirais que le regard du Père seul compte. Voyez que Jésus est en train de parler de ceux qui aiment prier devant le regard des autres. Ça leur donne quelque chose. Et je suis d'accord, nous avons besoin d'une récompense. Nous avons besoin d'une récompense à la prière. On ne peut pas prier pour rien. Lorsque nous prions, nous cherchons que quelque chose nous revienne, que cette prière ait un sens. Et pour certains, le sens, c'est que on m'a vu prier. On m'a vu prier. Mais dans le lieu secret, ça ne marche plus. Et si c'est ta raison d'être pour prier, tu ne vas pas prier en secret. Mais si tu pries comme il faut en secret, tu touches par la foi cette réalité dont Jésus parle quand il dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. » Première chose qu'on touche par la foi. Deuxième, « Et ton Père qui voit dans le secret. » Ton Père qui voit dans le secret. Et je touche cette réalité en priant que j'ai un auditoire. Et c'est le Dieu éternel, le Père qui m'aime. Et là, le lieu secret devient précieux. Parce que le regard du Père devient plus valable, plus valorisant que le regard de tous les hommes. Ça, c'est la deuxième partie d'Hébreux 11, 6 aussi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le Père qui est là dans le secret et qu'il est celui qui récompense. Qui récompense. Et pour Jésus, il utilise plusieurs fois le mot récompenser. Ne prie pas pour être vu parce qu'ils ont leur récompense. Et regardez la fin du verset 6. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est le même mot, récompensera. Celui qui prie dans le secret ne le fera pas longtemps, à moins qu'il croie, touche par la foi deux réalités. Que le Père est là dans le lieu secret d'une manière particulière, parce que c'est lui qui a voulu que tu viennes là. Et deuxièmement, que le Père voit ta prière, il se contente de ta prière et il te le rendra ouvertement. Bien, on va dire juste une dernière chose au sujet du lieu secret, et je ne sais pas si les chrétiens ont une vie de prière quotidienne dans le secret maintenant. Je crains que cette habitude se perde. Dans les autres générations, tous les chrétiens savaient que Dieu les appelait à un moment précis, quotidiennement, dans le secret avec le Père et moi seul. Qu'aucun chrétien ne devait vivre sans avoir ce moment. Et d'ailleurs, je peux vous le prouver que c'est quelque chose auquel Dieu se tient. Jésus dit, quand tu pries, toi, ferme la porte, va dans le lieu secret, prie ton Père, et quand tu pries, dis, entre autres, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Jésus dit, dans le lieu secret, vous devez prier une prière quotidienne. Une prière qu'il faut répéter chaque jour. Donc pour Jésus, cette démarche dans le lieu secret est une démarche quotidienne. Vous voyez? Une démarche qu'on ne peut pas prier pour mon pain un jour et puis pendant cinq jours. Je ne répète pas l'expérience. Jésus est en train de nous parler d'une habitude qui ne se manque pas, de jour en jour en jour. Maintenant, la dernière chose que je voudrais vous dire au sujet du lieu secret, c'est le point 2 sur votre feuille. Dans le lieu secret où le chrétien prie, quelque chose d'immense lui arrive. Si vous voulez comprendre la vie secrète du chrétien, vous devez saisir que quand le chrétien prie et il entre dans le Saint des Saints véritablement, dans la présence spéciale de Dieu, c'est ça que Hébreux 10 veut dire. On s'approche du sanctuaire du Saint des Saints par le sang de Christ. Et quand on vient là, quelque chose nous arrive. Quelque chose nous arrive. Regardez, je vais expliquer ce que je veux dire. Le verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te fera quelque chose. Il te le rendra. Lorsque le chrétien accède à la présence particulière de Dieu, pas la présence omnisciente, Tu peux être dans la présence de Dieu tous les jours et ton visage ne brille jamais. Mais quand Moïse allait dans le lieu où il fermait la porte dans le Saint des Saints, dans le tabernacle, et quand il sortait, son visage rayonnait parce que quelque chose s'est passé à lui là. Vous voyez? Jacques le dit de cette manière, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Et quand Dieu s'approche de vous, d'une manière particulière, Dieu est toujours proche de vous dans la sens omniscience, mais on ne parle pas de ça. On parle de quelque chose qui est ressenti, qui est vécu, et dans le lieu secret, il y a une promesse que Dieu s'approche de vous. En d'autres termes, dans la prière chrétienne, il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Je suis d'accord avec vous que parfois on a des moments de prière de jour en jour où on a l'impression qu'on n'a pas rencontré Dieu. Et peut-être dans nos, s'il y a des péchés vraiment dans nos vies et on est en train de prier comme une hypocrite, peut-être pendant quelques jours, il peut y avoir des moments tendus, un peu difficiles dans la prière. Mais je parle de la vie de prière ordinaire. Je parle de jour en jour, habituellement, que vous le ressentiez ou non. Hein? C'est pas une affaire émotionnelle, même si ça ne peut que créer des émotions parfois. Mais Dieu te parle dans sa parole. Et parfois, le chrétien sait qu'il doit littéralement cacher son visage dans ses mains parce qu'il est dans la présence de Dieu et il réalise cette présence. Et Dieu s'approche de lui. Et ça, c'est une expérience dans le lieu secret que si vous ne l'avez jamais, vous devez vous repentir, revoir vos bases et demander pourquoi est-ce que je ne rencontre jamais Dieu dans mon lieu secret. Il y a plusieurs années, j'ai parlé avec une étudiante dans une rencontre de jeunes, et cette personne m'a confié une chose qui m'a bouleversé. Je ne pouvais pas m'en revenir parce que c'était une personne très engagée dans la foi, d'une famille chrétienne très engagée dans la foi, et elle m'a dit qu'elle ne parlait jamais à Dieu, que dans ses moments de prière, elle écrivait tout simplement ce qu'elle voulait dire à Dieu, mais elle ne le disait pas à Dieu, ni à haute voix, ni mentalement. Et j'ai dit à cette personne, tu ne pries pas, tu es une personne qui ne prie pas. Parce que la raison pour laquelle on écrit à une personne, c'est qu'elle n'est pas là. Je ne vais pas aller chez vous et puis vous écrire tout ce que je veux vous dire. Si je ne suis pas muet. D'accord? On peut écrire pour préparer ce qu'on va penser et ce qu'on veut prier, mais ensuite on le prie. Et la Bible dit que la prière, c'est « Tu entendras ma voix ». Osée chapitre 14, Dieu dit à Israël, « Prenez avec vous des mots et venez à moi et dites, reçois-nous favorablement ». Et partout et universellement, toujours dans la prière, dans l'Ancien Testament et le Nouveau, les hommes parlent à Dieu et c'est une parce qu'il est là. Maintenant, la raison pour laquelle cette personne ne parlait pas à Dieu, c'est parce que pour cette personne, Dieu n'était pas là d'une manière aussi assez palpable pour parler. Et lorsque on a l'impression que quelqu'un n'est pas là, on ne parle pas dans l'air. C'est tout simplement cela. Pour beaucoup de chrétiens, la prière est comme un répondeur ou une voix vocale, une boîte vocale. C'est-à-dire, tu appelles et personne n'est là, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu laisses un message. Et quand la personne viendra, elle prendra le message. Cette fille faisait ça. C'est pas grave, je ne peux pas lui parler parce qu'il n'est pas là. Mais je laisse un message, il viendra prendre ça. C'est beaucoup plus difficile de venir dans la présence de Dieu et de parler. Parce que pour parler, il faut que tu sois conscient et que tu crois que quelqu'un est là. Quand personne n'est là, tu peux écrire des lettres. Et d'habitude, quand les gens écrivent des lettres, c'est parce qu'il n'y a personne là. D'accord? Mais je vous supplie que si vous écrivez des prières, sachez que vous ne les avez pas encore priées. Vous les avez préparées. Ensuite, vous devez les dire à Dieu. Mais ce que je voulais surtout vous dire, excusez-moi de cette parenthèse, c'est que dans le lieu secret, quelque chose nous arrive parce que Dieu s'approche de nous. Et c'est un lieu de rencontre dans ce lieu secret. Maintenant, dans le troisième point, nous apprenons du Seigneur que la prière chrétienne est radicalement différente de la prière païenne. Mais des tendances païennes nous collent à la peau. Je veux maintenant forcer mon entrée dans ta vie de prière, un peu. Laissez-moi venir, parce que je me connais moi-même, David le païen, converti, et je vous connais un peu aussi, peut-être si vous êtes comme moi. Alors, on relit donc le verset 7 dans Matthieu 6. Jésus dit en priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, raison, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Dans la prière païenne, si nous le faisons de temps en temps, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte pour que cette prière arrive à son but? C'est ce que l'homme fait dans la prière. Pour amener son Dieu à se réveiller, n'est-ce pas? À s'intéresser, parce qu'il ne s'intéresse pas. Et là, pour ces païens, c'est multiplier des paroles. Vous avez vu des réunions de prière où les gens crient? Ça commence tout doucement, et puis on parle de plus en plus vite et plus en plus fort! Parce que c'est ce que l'homme fait qui est l'important dans la prière. C'est une prière païenne. J'ai demandé à des gens une fois qui faisaient ça, parce qu'on était en Afrique, et j'ai dit, est-ce que je sais que vous avez beaucoup de respect pour les vieux et pour les pères dans votre culture, est-ce que vous criez sur vos pères? Est-ce que vous venez et vous parlez, puis vous parlez plus en plus vite à lui et vous dites « Père, je réclame, je réclame !» Ils étaient complètement scandalisés par l'idée de faire ça. J'ai dit « Pourquoi le faites-vous avec Dieu votre Père ?» C'est parce que c'est une prière païenne à un Dieu païen qu'il faut réveiller, il faut crier sur lui. C'est ce que vous faites qui est la clé. Ça va? Ok. Dans la prière chrétienne, quelle est la clé? C'est celui à qui vous priez et le fait qu'il soit votre Père, qu'il sait déjà, et le mot savoir ne veut pas dire simplement qu'il est au courant. Ça veut dire qu'il prend à cœur déjà, avant que vous veniez lui demander, et que c'est lui qui vous a dit maintes et maintes fois, venez, venez, je veux que tu discutes ça avec moi. Je m'en occupe. C'est ça la différence avec la prière chrétienne. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. En d'autres termes, dans la prière païenne, c'est l'homme qui est à l'initiative pour essayer d'amener son Dieu à répondre. Dans la prière chrétienne, chaque fois que tu pries, tu ne prends jamais une initiative. Jamais. Chaque fois que tu pries, tu es en train de répondre à une initiative du Père qui te dit « Viens, viens, viens dans le lieu secret. Je suis déjà au courant, je m'en préoccupe plus que toi, viens. » C'est pour cela que Allhelsby, le grand pasteur et théologien norvégien, a écrit un livre magnifique qui s'appelle La prière. Et il a dit que pour lui, le verset clé de la prière, c'est, je vais vous étonner, Apocalypse 3:20. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur un plan, mais tout à fait dans un autre sens. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, ainsi de suite. Et il dit que prier, c'est laisser le Seigneur entrer, parce que lui, il est à l'initiative. Et il dit, allez, allez, laisse-moi entrer, laisse-moi m'en occuper. Et là, c'est vrai. C'est cette conception de la prière qui est chrétienne. Non pas que je réveille mon Dieu et que je prends l'initiative, mais que chaque fois que je viens, il est là et... Oui, je t'attendais. Je t'attendais. Je sais. Viens m'en parler. Et cela change complètement la manière de prier. Tu ne commences jamais une conversation avec le Père, tu rejoins une conversation qu'il a commencée. C'est pour ça qu'en Ézéchiel, Dieu dit à Israël à un moment donné, il dit certaines choses qu'il va faire, pour tout cela, je me laisserai fléchir par Israël. C'est-à-dire, ils vont prier, mais c'est Dieu qui va les amener à prier, qui va susciter en eux la prière. Ok, bien, j'ai été un peu long, mais je n'ai pas abordé le point central de la prière. Et dans tout ce que j'ai dit, je ne suis pas arrivé au cœur de la prière chrétienne. Un peu, mais pas complètement. Vous pouvez prier selon tout ce que je vous ai dit jusqu'ici sans que ce soit pleinement chrétien. Et maintenant, je vais vous donner la partie essentielle. C'est le point 4. La prière dépend et découle de notre relation de fils à Dieu le Père, une relation qui ne fonctionne plus en dehors de cette réalité. Remarquez d'abord que partout dans ce passage, il s'agit du Père, du Père, du Père, du Père. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque vous priez, lorsque tu pries, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te rendra, et ainsi de suite. Priez comme ceci, notre Père. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, la prière dépend du fait que tu as une relation fils-père avec Dieu. Et je vais concrétiser ça tout à l'heure, vous allez voir ce que je veux dire. Mais tournez la page avec moi et regardez Matthieu 7 et le verset 9 et suivant. On va voir comment ça ne marche pas vraiment, la prière chrétienne, si ce n'est pas juste une implication de cette relation père-fils. Alors, je lis donc peut-être au verset 7 pour avoir le contexte. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et maintenant, Jésus donne la raison pour laquelle ça marche. La prière chrétienne marche pour la raison suivante. Verset 9. Quel homme parmi vous vous donnera une pierre à son voisin ou un étranger? Non, ça pourrait marcher, peut-être, mais... Ça change si c'est son fils. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils si lui, il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? En d'autres termes, c'est parce que Dieu vous considère comme son fils et comme vous avez cette relation qui s'en préoccupe, qu'il vous attend comme un père plein d'amour. C'est pour cela que la prière marche et que la prière doit marcher. Je veux juste vous donner un ou deux autres versets pour montrer ce de quoi je parle, et puis on va finir par une illustration. Vous savez, chers amis, que nous avons une relation de fils au père. Je dis fils même à vous qui êtes filles, parce que dans un sens, on est tous fils de Dieu. Ça, c'est un langage biblique. Et tout dans la création est féminin par rapport à Dieu. Nous sommes tous l'épouse de Christ. Donc, ne prenez pas mal de la référence au fils. Mais en Galates, nous entendons ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et parce que vous êtes fils, vous avez vu la logique, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Parce que vous êtes fils, vous avez un instinct de parler avec Dieu, non comme Dieu, mais comme Père. De vous sentir dans cette relation, et je pense à mes filles devant moi, qu'elles ont un lien à moi, un accès à moi, une relation avec moi qui est complètement différente d'un simple ami. C'est complètement différent. Et puisque vous avez cette relation, par la grâce souveraine de Dieu qui l'a fait, ça ne vient pas de votre mérite, quand vous priez, c'est complètement différent. Mais ce que nous ne comprenons pas toujours, c'est que ce statut de fils que vous avez, c'est parce que Jésus, le Fils incarné, par sa mort et par sa résurrection, vous a amené à avoir part à sa relation de fils avec le Père. Là, on est en train d'arriver au nœud. Depuis l'éternité, la Trinité vit dans une relation d'amour. Et depuis toujours, il y a une relation particulière entre le Fils et le Père, qui est une relation filiale. D'accord? Insondable. Merveilleuse. Et Jésus est descendu sur terre, il a pris notre humanité afin de ramener cette humanité au ciel dans la relation qu'il avait avec le Père avant que les mondes ne fussent. Maintenant, Jésus a la même relation avec le Père, mais pas simplement en tant que Dieu, le Fils, mais en tant qu'homme. C'est un homme à la droite du Père et il a amené son humanité dans cette relation pour que notre humanité, nous, soyons dans la même relation. Si nous comprenons cela, nous concluons que la prière chrétienne, toi quand tu pries, tu es en train de rejoindre une conversation au sein de la Trinité depuis toujours, et Dieu t'ouvre de manière merveilleuse par à la même relation que Jésus a avec le Père, sans que vous soyez divin. Je mets de côté cette partie. Vous rappelez quand Jésus est ressuscité, il a dit à Marie ceci, Marie Magdalene, il a dit, dis à mes frères, les disciples, que je vais à mon Père, à mon Dieu et leur Dieu, mon Père et leur Père. Il n'a pas dit, je vais à notre Père, parce qu'il ne peut pas le dire comme ça. Il n'est pas le Père de Jésus dans le même sens que vous, parce qu'il est fils divin et vous êtes fils adopté. Mais quand il dit « mon Père et leur Père », il est en train de dire « je les ai amenés dans ma relation avec le Fils ». Vous n'allez pas croire ça parce que c'est trop grand et je vais quand même vous le prouver. Vous êtes justifié? Vous avez le statut d'un juste devant Dieu? Pourquoi l'avez-vous? N'est-ce pas parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection et sa vie parfaite, vous a amené à avoir part à son statut de juste devant le Père? Oui ou non? C'est son statut. Vous êtes fils parce qu'il vous a amené à avoir part à son statut de fils aussi. Ça n'a rien à voir avec son statut de fils en tant que le fils incarné. Je parle de son humanité. Maintenant, ça semble voler dans les airs, abstrait, et donc je vais vous raconter une histoire. J'ai oublié une autre histoire qui était très importante tout à l'heure, mais je vais laisser tomber cela pour l'autre point. Je vais quand même vous dire ceci. Il y avait une fille qui était une chrétienne et ses parents sont décédés quand elle était bébé, tous les deux dans un accident. Cette fille a grandi dans des maisons d'accueil. Elle a été passée malheureusement d'une maison à une autre plusieurs fois dans sa vie. Et de sorte qu'elle n'a jamais, jamais expérimenté ou connu ce que c'est que la relation enfant-parent. Cette relation particulière, n'est-ce pas, où on est vraiment aimé et partie de la famille. Quand elle est devenue adulte, elle a un jeune homme chrétien vraiment formidable, l'a aimé et l'a épousé. Alors lui, par contre, il a grandi dans une famille chrétienne où la relation parent-enfant marchait formidablement. Et il avait une relation super, super proche avec son père et sa mère. Et pour la fille, c'était vraiment étonnant de voir ça. Mais heureusement, les parents étaient vraiment pieux et affectionnaient leur belle-fille. Et ils se sont même dit entre eux, ça c'est la fille que nous n'avons jamais eue. Et Dieu nous la donne maintenant. Et ils ont tellement pris cette fille dans leur famille que les gens de dehors qui apprenaient à les connaître se demandaient lequel c'est leur enfant. Est-ce que c'est le fils qui est leur fils ou la fille qui est leur fille? Parce que elle avait accédé à la même relation que son mari avec ses parents. Vous voyez, en l'épousant, le mari a amené sa femme dans la même relation enfant-parent qu'il avait avec ses parents. Et elle jouissait de toute cette relation. Pourquoi? C'est parce que son mari avait cette relation et il l'a fait venir là-dedans. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ça, la prière chrétienne. C'est être amené par Jésus dans une relation formidable qui a déjà existé, qui est particulière, parce que c'est une relation filiale d'un amour si proche. Ce n'est pas prier à Dieu. On ne prie pas à Dieu. Vous voyez? C'est tellement loin de la conception familiale. Chrétienne, c'est être amené par Jésus dans la même relation filiale qu'il a avec le Père depuis toujours et jouir de cela. Peut-être est-ce que vous vous étonnez de ce que je dis? C'est quand même surprenant de penser que le mari c'est Jésus, la belle-fille c'est nous, et c'est nous qui avons été amenés par lui dans la famille, à jouir, les parents la traitent, la belle-fille, comme le fils. C'est ça, la prière chrétienne. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler sur nous-mêmes par la vérité biblique et réaliser qu'on n'est jamais initiateur dans la prière. Jamais. Parce que ça ne marche pas comme ça avec un père. Le Père est toujours au-devant, toujours devant, et il est en train de nous supplier. Il y a 2 jours à Bruxelles, je suis sorti le soir pour trouver quelque chose à manger. On me donne une petite chambre, mais je dois m'occuper de mes repas. Donc je suis sorti, et il faut savoir que l'Institut Biblique Belge se trouve dans un vieux bâtiment, ces grands bâtiments dans la ville de Bruxelles, avec des étages très grands et des vieux escaliers en bois et très beaux. Mais quand tu fermes la porte est fermée à clé. Et l'IBB occupe plusieurs étages dans cette entrée du bâtiment. J'ai mangé, je suis revenu, j'ai cherché ma clé. J'ai oublié de prendre ma clé pour revenir dans le bâtiment. C'est le soir. Aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Le concierge, on m'a dit plus tôt dans la journée qu'il était absent aujourd'hui. De toute façon, je ne le connais pas du tout. Donc, j'ai pas envie de sonner chez lui. C'est un étranger. Il y a Pierre, un des étudiants qui habite là. Oh là là. Il y a Paul et Eleanor, c'est un des professeurs et sa femme. J'ai mangé avec eux une fois, ils sont super gentils, mais je les connais pas vraiment. Là, je veux embêter personne et je regarde, j'espère que quelqu'un va venir derrière avec une clé pour entrer. Et puis, personne ne vient. Je dis, ok, bon, Pierre, pas là. Ok, Paul et Eleanor. J'appuie, et bien sûr, Eleanor me dit, ah, David, on te laisse entrer, qu'est-ce que... Enfin, j'ai oublié ma clé, aucun problème. Mais, donc, c'était dur, hein, c'était dur pour moi de demander. Mais supposez que ça se passait un peu autrement. J'arrive, et l'interphone, et bizarrement, on marche déjà. Parce que j'entends dans la maison, dans le logement de Paul et Eleanor, les deux qui se parlent. Et Paul dit, ah, David a oublié ses clés, je les ai trouvées là. Et je l'ai vu sortir, je crois qu'il est allé chercher quelque chose à manger. Mince, je me demande s'il va savoir qu'on peut bien lui ouvrir, j'espère qu'il ne va pas se gêner. Eleanor, est-ce que tu penses que je dois aller le chercher? Moi, je me soucie un peu. D'ailleurs, je voulais discuter un truc avec lui ce soir. Et vous savez que si j'arrivais et j'entendais tout ça, moi je prie sans hésitation, n'est-ce pas? Ah oui, je suis là, tu me veux, je suis là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'initiative pour embêter quelqu'un en multipliant des paroles. Vous voyez? Donc, le chrétien n'est jamais à l'initiative. Dieu est déjà à l'interphone en disant, allez, allez, je m'occupe de toi, je suis ton père. Et ça change vraiment. La prière chrétienne. Ok, excusez-moi d'avoir été long, mais j'espère de tout cœur que vous pouvez vous rappeler au moins de ces deux illustrations, que Dieu est déjà à l'interphone avec du souci pour toi et que il t'a fait entrer dans la même relation, Jésus, que lui, il a toujours eu avec le Père. Nous allons chanter ensemble un chant qui parle de l'amour paternel de Dieu, c'est le 321.